France Inter, il est 8h. Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, devine qui vient dîner ce soir. Emmanuel Macron sort le grand jeu pour accueillir les grands patrons de la planète. Google, Coca-Cola, Alibaba, ils seront près de 150 ce soir au château de Versailles. Des grands patrons de plus en plus riches, dernier rapport de l'ONG Oxfam. Jamais la concentration des richesses n'avait atteint un tel niveau sur la planète. Ainsi, aux États-Unis, les trois hommes les plus riches du pays possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population. Retour à la case départ dans les prisons, la moitié des établissements bloqués. Ce matin, les syndicats ont rendez-vous au ministère. On ira à Fleury-Mérogis retrouver Corinne Audouin. Et puis, lors du grand nettoyage à Notre-Dame-des-Landes, les zadistes doivent rendre à la circulation la route qui coupe la ZAD en deux. Reportage dans ce journal et dans 20 minutes, votre invité, Nicolas.
Delphine Bateau, ancienne ministre de l'écologie, aujourd'hui candidate au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Vos questions au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, un rappeur au tribunal pour avoir tourné un clip sur une autoroute. Du nouveau pour les 2 millions de Français qui emploient un salarié à domicile. À l'étranger, le Liberia qui s'apprête à investir aujourd'hui Georges Weah comme président. Et puis le football, Lyon qui fait chuter le PSG. C'est en quelque sorte son cadeau de bienvenue aux grands de ce monde qui se retrouvent dès demain à Davos pour le Forum économique mondial. L'ONG britannique Oxfam s'inquiète d'une concentration inédite des richesses produites sur la planète. Ainsi, sur 100 dollars de richesses produites l'an dernier, 82 sont tombés dans les poches du 1% d'humains les plus riches. La tendance constatée ces dernières années s'amplifie encore et les chiffres, Delphine Simon, sont impressionnants.
Ils sont désormais 42 à posséder autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. En 2010, ils étaient 388. Le patrimoine des plus riches augmente, tandis que les revenus des plus pauvres se réduisent. Si la croissance est là, elle est de moins en moins partagée, explique Manon Aubry, porte-parole d'Oxfam.
Le patrimoine des milliardaires a augmenté en moyenne de 13% par an depuis 2010, alors que dans le même temps, la rémunération de la main-d'œuvre, ceux qui pourtant produisent les richesses, n'a progressé que de 2% par an.
Dans son rapport, Oxfam pointe les coupables, l'évasion fiscale, stimulée par la concurrence entre les pays, un droit du travail affaibli et une pression très forte sur les salaires, des inégalités qui se renforcent jusqu'au sein des entreprises.
La France est la championne d'Europe pour le montant des dividendes versés par les entreprises à ses actionnaires. Les dividendes ont été multipliés par 3 en l'espace de 15 ans, alors que le salaire moyen n'a augmenté qu'à peine plus de 10%.
Une étude à nuancer, car dans les richesses, Oxfam inclut aussi les crédits, mais le constat reste crédible. Alors qu'Emmanuel Macron reçoit 140 patrons, Oxfam lui demande de faire la lutte contre les inégalités une priorité du quinquennat.
Et du côté des bonnes nouvelles, le rapport note aussi que le nombre d'humains vivant dans l'extrême pauvreté a été divisé par 2 en l'espace de 20 ans. Rapport à retrouver sur franceinter.fr. Et avant de poser le pied à Davos demain, dans la très chic station de ski, c'est sous les ors du château de Versailles que certains des participants dîneront ce soir. À l'invitation d'Emmanuel Macron, 140 patrons de grands groupes étrangers participent à un sommet sur l'attractivité de la France. Coca-Cola, Google, Goldman Sachs, Barilla, Rolls-Royce, Ikea ou encore Facebook. Facebook qui d'ailleurs n'arrive pas les mains vides. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
L'entreprise de Mark Zuckerberg annonce qu'elle va investir 10 millions d'euros en France pour financer la recherche sur l'intelligence artificielle. Il y a quelques jours, ce sont ses impôts qu'elle s'engageait à payer en France. Ça sent un peu l'opération séduction.
Oui, votre pays regorge d'entrepreneurs, de savoir. Il y a quelques-uns des meilleurs chercheurs au monde ici. Des produits de start-up qui rayonnent partout. Florilège de compliments ce matin de la part de Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook dans les échos. Des annonces qui arrivent, vous le disiez Marc, après la décision de changer son fil d'actualité pour, selon Mark Zuckerberg, limiter les fausses informations, mais aussi cette annonce il y a 10 jours de Laurent Soli, le président de Facebook France, dans l'émission de France Inter, on n'arrête pas l'écho.
C'est la première entreprise de cette nature, de cette taille digitale, à avoir annoncé un changement. Ça veut dire qu'à partir de l'année 2018, les revenus de Facebook France, investis par des entreprises sur le territoire français, seront déclarés en France. C'est un changement qu'on fait parce qu'on écoute la société.
Voilà, on écoute la société. Ou autre hypothèse, Facebook voit le vent tourner et veut se racheter une bonne conduite car cette opération de charme ne concerne pas que la France. Le directeur de la communication et des relations publiques de Facebook est lui en ce moment en Allemagne. Il a profité hier d'une conférence à Munich pour présenter ses excuses sur le manque d'action contre les fausses informations et les discours haineux, car Facebook doit faire face à plusieurs lois ou projets projet de loi qui pourrait bien l'embêter. Berlin a en effet mis en place depuis le 1er janvier de lourdes amendes si les réseaux sociaux ne retirent pas les discours d'incitation à la haine de leur contenu. À quoi s'ajoute l'idée d'une loi anti-fake news d'Emmanuel Macron qui va obliger les plateformes internet à plus de transparence, ou encore cette proposition au niveau européen d'une nouvelle taxation des géants du net. Et devinez qui en sont les moteurs, la France et l'Allemagne, les deux étapes européennes des dirigeants de Facebook.
Merci Hélène Chevalier. Au total, 16 ministres ont été priés d'assister au discours ce soir, discours qui se fera à huis clos. La presse n'est pas autorisée à couvrir l'événement au château de Versailles.
Il est 8h05, il semblait s'essouffler, eh bien il repart de plus belle.
Le conflit dans les prisons entre dans sa deuxième semaine et se durcit ce matin. Un premier décompte réalisé grâce au réseau France Bleu fait état de 90 établissements bloqués partiellement ou complètement, la moitié des prisons. Donc c'est le cas de la prison de Fleury-Mérogis dans l'Essonne, devant laquelle vous vous trouvez. Corinne Audouin, bonjour.
Bonjour Marc.
Ce week-end, la base a rejeté le protocole d'accord signé par certains syndicats, mais un nouveau rendez-vous est déjà programmé aujourd'hui au ministère de la Justice.
Ordre est donné de fermer la porte.
Voilà, devant la lourde porte en bois métallique de la maison d'arrêt pour hommes de Fleury, ils sont 200 surveillants massés, décidés à ne pas prendre leur service ce matin. Pourtant, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, va recevoir les syndicats aujourd'hui dès 13h. Alors, le protocole signé vendredi soir était trop flou, il a été rejeté par la base. Il faut continuer à mobiliser, explique Régis Gravat, délégué régional pour l'Île-de-France de l'UFAP.
En fait, tout conflit qui dure trop longtemps peut avoir des dégâts désastreux. Nous travaillons dans la sécurité, les personnels travaillent seront en difficulté si ça continue trop longtemps, mais aujourd'hui on est déterminé à continuer à la mobilisation. La sécurité c'est le point d'ancrage pour nous. Il faut des mesures immédiates contre les agressions, contre tous les détenus violents. Il faut des mesures immédiates.
La sécurité mais aussi les salaires sont désormais sur la table des négociations. Derrière un barrage de pneus et de palettes prêts à flamber, malgré la pluie battante, beaucoup d'agents ont des foulards sur le visage, des lunettes de plongée, prêts à être délogés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène, comme cela s'est passé ici même la semaine dernière.
Merci Corinne Audouin. Avec Marc Garvenès à Fleury-Mérogis hier, ce sont deux gardiens de la prison de Longuenès dans le Pas-de-Calais qui ont été attaqués par un détenu à l'aide d'une barre de fer arrachée à une table. Ils ont été hospitalisés. Des zadistes, la pelle et le sac poubelle en main, ce sera l'image du jour à Notre-Dame-des-Landes. 5 jours après l'abandon du projet, les occupants de la ZAD font le ménage aujourd'hui. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Ils vont déblayer la route d'accès qui était fermée depuis près de 5 ans et que le gouvernement leur demande de rendre aux automobilistes.
Le mot d'ordre, c'est rendez-vous au Lama Fâché à 10h. Ce lieu-dit ne figure sur aucune carte, mais les initiés le connaissent bien sûr. Les candidats au nettoyage sont censés venir avec leur pique-nique et outiller, vous l'avez dit, fourche, pelle, gants, grand sac de ferme. Le communiqué du site de la ZAD précise et de la volonté, effectivement. Il en faut un peu parce qu'il vente, il pleut à verse. Bref, il fait un temps épouvantable ce matin qui devrait s'améliorer un peu dans la journée. Surtout, il y a sur la route encore pas mal de gros encombrants, des carcasses de voitures encore. Il y a ces baraques et miradors à démonter aussi. Les paysans du collectif arrivent avec leurs tracteurs, leurs bennes, leurs pelles mécaniques pour sceller le sort de ce symbole fort, donc celui d'une lutte aussi longue qu'emblématique. Rouvrir, c'est concéder que la bataille est pour ainsi dire terminée. Il y a eu débat vif manifestement, d'ailleurs la semaine dernière en AG, avant que cette décision ne soit entérinée. Car rouvrir, c'est aussi couper la ZAD en deux entre l'Est et l'Ouest, entre les squats des combattants et les fermes en dur des paysans installés. Presque une déchirure. Remarque.
Béatrice Duguay avec Pierre Quintard. Méfiez-vous, hein, quand Lama fâché, on connaît la suite, Nicolas Demorand.
Il est 8h09, c'est un clip qui pourrait lui coûter cher.
Et qui lui vaut de passer au tribunal. Aujourd'hui, lui, c'est le rappeur Fianso, de son vrai nom Sofiane Zermani, jugé à Bobigny pour entrave à la circulation. En avril dernier, il s'était invité en pleine journée sur l'autoroute A3 pour y tourner son dernier clip. Rémi Brancato.
Cette affaire, c'est celle de ce clip.
Elle est à l'entrée de l'autoroute, là.
Le 7 avril, plusieurs voitures de front s'arrêtent sur l'autoroute A3, bloquent la circulation. Sofiane et ses acolytes descendent. Ils tournent un clip de 4 minutes. Quelques jours après, il y aura un autre clip tourné aussi sur la voie publique dans la cité des 3000 d'Aulnay-sous-Bois. Au mois de mai, Sofiane s'est excusé dans un reportage de TF1. Il se s'est attendu au procès, son avocat Steve Ruben.
Le procès, il ne sera pas dans les médias. Il sera devant le tribunal. Ce ne sont pas des événements anodins. En revanche, il y a peut-être une surmédiatisation et on s'intéresse de manière très importante à ce garçon.
Après le clip d'Aulnay, Fianso avait été placé en garde à vue et à l'audience en mai, en comparution immédiate. Steve Ruben a obtenu sa libération. Il a fait annuler une partie de la procédure. Alors le rappeur lui a rendu hommage en musique.
Évidemment très touchant. On a une profession où on est parfois les meilleurs l'espace d'un instant, d'une minute, et puis le lendemain on passe à autre chose. Il a exprimé sa reconnaissance à travers un morceau avec d'ailleurs des très jolies paroles et avec des choses qui sont très vraies. Ça a été sa manière à lui en tout cas de pouvoir manifester sa reconnaissance.
Le procès du jour ne se transformera peut-être pas en morceau de rap, mais il refait parler de Sofiane qui sort un nouvel album vendredi. Rémi Brancato, France Bleu Paris pour France Inter.
Trop cher, trop flou, trop risqué, la France retire sa candidature à l'organisation de l'exposition universelle 2025. Annonce du Premier ministre, hier, trois candidats restent en lice, la Russie, le Japon et l'Azerbaïdjan. Attention, si vous faites partie des 2 millions de Français qui emploient une personne à domicile, nounou, aide à domicile, repassage, ménage, les employés vont bénéficier eux aussi de la réforme en cours de la CSG, un léger coup de pouce sur la fiche de paie à la fin du mois, mais il faut pour cela que les employeurs pensent à les augmenter ce mois-ci de quelques centimes par heure. Pour les employeurs, le coût total sera le même. Encore faut-il qu'ils en soient informés. Maxime Deps.
Venu récupérer son enfant à la sortie de l'école, Claire se dépêche, cartable sous le bras. La femme de ménage l'attend à la maison. On lui apprend qu'elle va devoir revoir son salaire à la hausse.
Non, je ne savais pas que je vais l'augmenter. Il y a un truc qui est passé, il y a une loi qui est passée.
Réponse, eh bien oui, cette loi, c'est celle du budget 2018. Le texte intègre la baisse des cotisations pour donner plus de pouvoir d'achat aux salariés. Tout est pensé pour les entreprises qui n'ont qu'à modifier deux lignes sur la fiche de paye rédigée en brut. C'est différent pour les particuliers qui, eux, raisonnent en net. Les services de l'URSSAF, du CESU et de Page Emploi ont d'ailleurs commencé à leur envoyer des mails pour les informer de leurs nouvelles obligations. Marie-Béatrice Levaux préside la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs.
Je pense que tout le monde va le comprendre. Et si vraiment il y avait des situations de mauvaise foi sur ce sujet, on sait très bien que, comme pour tous les droits sociaux, les salariés peuvent aller réclamer leur dû par le biais des conseils prud'homaux.
La FEPEM qui tient à préciser, cette nouvelle obligation n'augmente pas pour autant le coût du travail. Simplement, les particuliers qui emploient ces personnes à domicile sont désormais moins prélevés. Il est donc naturel que cette baisse de prélèvement se répercute sur le salaire net de leurs employés.
Inter 8h12, des centaines de blindés marquent qui passent la frontière. La Turquie met un pied de plus dans la guerre en Syrie. Ce week-end, Ankara a lancé ses chars et son artillerie contre les Kurdes de la région d'Afrin, dans le nord de la Syrie. On redoute une nouvelle escalade, les Kurdes en question étant alliés à Washington dans la lutte contre les djihadistes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui pour évoquer cette offensive. C'est l'histoire d'un gamin du bidonville qui s'apprête à prêter serment au Liberia. C'est aujourd'hui que George Weah accède officiellement au pouvoir, un mois après son élection présidentielle. L'ex-Ballon d'Or entre dans l'histoire, mais la tâche qui l'attend est gigantesque. Les deux tiers des Libériens vivent sous le seuil de pauvreté. Cécilia Arbonnat, l'envoyée spéciale de France Inter, est retournée dans le quartier où Weah a grandi, dans les faubourgs de la capitale, et où l'attente, elle aussi, est immense.
Mr George n'existe pas, c'est une pure invention française. Dans le ghetto de son enfance, George Weah avait un autre surnom.
Le premier surnom qu'on lui a donné, c'était Travolta. Parce qu'il dribblait aussi bien que John Travolta dansait.
Ni la fortune ni la gloire n'ont changé Weah, assure Boy McKernay, qui a grandi avec lui.
Nous sommes des garçons des rues et quand vous jouez au foot, les gens considèrent que vous restez un gosse de la rue et que vous n'accomplirez jamais rien dans la société. C'est un homme qui aime les défis. Il aime démontrer que les gens ont tort.
Tenace, déterminé, oui, mais attention à ne pas trop lui en demander, prévient Anthony.
L'attente est si grande chez nous qu'on doit limiter nos espérances. Nous voulons de lui qu'il règle tout en une seconde. Je m'adresse donc à tous les Libériens. Nous devons être patients.
Rien que dans le bidonville de George Weah, il y a encore tant tant à faire. Les gens ont l'électricité, mais pas d'eau potable. Monrovia, Gilles Gallinaro, Cécilia Arbona, France Inter.
Enfin, toujours à l'étranger et en bref, en Chine, la marée noire n'en finit plus de s'étendre. Les trois nappes d'hydrocarbures parties d'un pétrolier qui a sombré il y a 8 jours ont triplé de superficie. Désormais, elles s'étendent sur 330 km².
Il est 8h15. Il n'y a plus, Marc, de Français sur les cours de l'Open d'Australie.
C'est terminé pour la dernière en lice. Caroline Garcia sortie cette nuit en 8e de finale. Défaite en 2-7 face à l'américaine Madison Keys chez les hommes. Qualification il y a quelques minutes de Roger Federer pour les quarts de finale. Et puis en Ligue 1, Lyon fait chuter le PSG. Le leader est tombé hier soir sur la pelouse des Lyonnais. 2-1 en clôture de la 22e journée. Soirée cauchemardesque pour les Parisiens réduits à 10 qui se sont inclinés à la dernière minute du temps additionnel. Sébastien Hazard.
Fébrile, ces Parisiens, c'est vraiment l'impression générale. Le Paris Saint-Germain a tout fait à l'envers. Un but encaissé après moins de 2 minutes, une expulsion stupide et enfin un nouveau but évitable dans les arrêts de jeu, même si cette contre-performance ne remet pas tout en cause, assure le milieu de terrain parisien Marco Verratti.
C'est pas un match qui fait perdre la confiance, c'est pas un match quand tu gagnes 8-0 qui te fait sentir invincible. C'est le football, il faut continuer à travailler, mais je pense qu'il ne faut pas être inquiet.
Peut-être, mais cette saison à Marseille, les Parisiens ont arraché un nul inespéré. À Munich, ils ont été inexistants et donc très nerveux hier soir à Lyon. Le PSG n'aime visiblement pas se faire bouger. Pourtant, le défenseur du Paris Saint-Germain, Levin Kurzawa, minimise la portée de ces mauvais résultats.
C'est des très bonnes équipes, c'est normal qu'on ait du mal aussi parfois. Il y a des joueurs en face qui nous posent problème. C'est des effectifs avec de très bons joueurs. Et on ne peut pas être tout le temps au-dessus, malgré les joueurs qu'on a. Des fois, ça donne un mauvais résultat.
Cette rencontre était un test, à un peu plus de 3 semaines du déplacement à Madrid. Un test raté. Lyon, Sébastien Hazard, France Inter.
Et au classement, Lyon reprend la 2e place et revient à 8 longueurs du Paris Saint-Germain.
Merci Marc Fauvel.